Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 17 avril 1975, les Khmers rouges prennent le pouvoir à Phnom Penh. En 4 ans, ils vont tuer près de 20% de la population du Cambodge. Voici le premier épisode de l'histoire de Pinyatay, un Cambodgien qui a vu mourir toute sa famille et qui a réussi à s'enfuir en Thaïlande. Une histoire que je tire de son livre qui paraît chez Archipoche, « Tu vivras mon fils ». Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Phnom Penh, 17 avril 1975. Je regarde ma montre, 5 heures. Je sors du lit, je vais à la fenêtre, je regarde et bah, la rue est pleine de gens. On dirait que tout le pays est là. Annie ! Annie, c'est la fin ! Les Khmers rouges seront bientôt là, il faut partir. Mais qu'est-ce qui va se passer, Yatai ? T'inquiète pas. Ce sera difficile pendant quelques temps et puis tout rentrera dans l'ordre. Pour l'instant, il faut habiller les enfants et gagner en vitesse le centre-ville avant l'arrivée des troupes. J'ai 3 enfants. Soudat, 9 ans. Nawat, 5 ans. Et un bébé, Stoud. Ça fait une semaine qu'on a tout prévu. Toute la famille doit se retrouver chez Juan, un cousin. On a fait le plein d'essence, il ne nous reste plus qu'à remplir 2 valises. Des vêtements, les bijoux d'Annie, nos économies et 3 000 $ en billets de 100. Une petite radio pour écouter les informations. Et aussi du papier, un crayon, un manuel technique sur l'irrigation. Je suis ingénieur, ça peut servir. Et un dictionnaire français-anglais. Je jette un dernier regard. Est-ce que j'aurais dû les envoyer à l'étranger? Non. Je déteste le régime corrompu qui est en train de tomber, celui du maréchal Lon Nol. Je n'ai rien à craindre des Khmers rouges. Ce sont des patriotes. Je connais beaucoup de gens qui les soutiennent. Mon père me dit que je me trompe, mais non. Ça reviendra comme avant. Ça sera toujours mieux que le régime pourri de Lon Nol. Je retrouve mes beaux-parents, qui sont déjà dans leur Austin. Je fourre mes bagages dans ma Fiat. Et on s'engage dans la rue. Un torrent de piétons et de voitures, de vélos, de motos, de charrettes. Et on fait quoi? 100 mètres. À une rue de chez nous, s'élève une colonne de fumée. Il nous faut 2 heures dans cette marée humaine pour rejoindre le quartier de mon cousin Rob, près du fleuve. Et quand j'arrive, toute ma famille est là. Aude, ses 2 sœurs, leurs enfants, mes 2 frères et leurs enfants, au moins 30 personnes, soulagées de nous voir. Les enfants courent jouer dans le jardin, les femmes se retrouvent à la cuisine, sauf ma sœur Wak, qui reste avec nous, les hommes. Qu'est-ce qui se passe en ville? Oh, je suppose que les 2 camps sont en train de trouver un arrangement. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'annoncent pas à la radio, alors? Faut pas s'inquiéter. On aura bientôt un autre gouvernement avec le prince Sihanouk à sa tête, vous verrez. Sur une desserte, il y a une radio allumée. Elle ne diffuse que de la musique militaire. Mais mon père, lui, répète ses mises en garde. Ce sont des communistes, Thaï. Des communistes. Ce qu'ils veulent dans ce pays. Ça va mal se terminer. Mais non, papa, enfin. C'est des rumeurs, ça. C'est de la propagande. Leur programme n'a rien de communiste. J'ai des amis chez eux, ils ne me mentiraient pas. Et là, ma mère prend la parole. Montre un peu plus de respect à ton père, Thaï. On a parlé à des gens qui ont fui les zones libérées. Ils ont tué leur famille et brûlé leur maison. Les Khmers rouges sont cruels, Thaï. J'étais sûr d'avoir raison. À peu près 1 heure plus tard, on entend une clameur dehors. Mon cousin Sim sort pour voir, il revient en trombe.
Thaï, Thaï, ce sont les Khmers rouges, ils sont là.
On va jusqu'au portail, et je vais jusqu'au boulevard Monivong pour voir. On se fraye un chemin à travers la cohue, les gens sur les trottoirs, et au milieu, je les vois. Une colonne de soldats comme je n'en ai encore jamais vu, habillés de noir. des uniformes taillés comme des pyjamas, des casquettes chinoises noires, ou pas, le regard droit devant eux, pas un sourire. Et quoi, 18 ans de moyenne d'âge, des adolescents au visage dur, dur, alors qu'ils reçoivent un accueil chaleureux, des automates. On rentre chez Ron. Bon, voilà, tout revient à la normale. Et on reste à discuter, à rire. On s'apprête à déjeuner ensemble. Et tout d'un coup, un homme arrive, essoufflé, apeuré, les vêtements en désordre.
Les Khmers Rouges. Les Khmers Rouges, ils nous ont fait sortir de nos maisons. Ils nous ont dit de partir de la ville. Tous. Qu'est-ce qu'on fait?
Ils plaisantent. Une évacuation de la ville? Mais quelle idée invraisemblable. Je décide d'aller consulter notre oncle, le patriarche Wat Tat, la plus haute autorité du bouddhisme cambodgien. On arrive à sa pagode au bord du fleuve. On s'agenouille, on fait nos trois saluts, les mains jointes devant le front. Et on s'assoit en tailleur pour l'écouter.
Une évacuation ne serait pas logique. Gardez votre calme. Attendez les ordres.
Le lendemain, 18 avril, on se lève avant l'aube, on fait nos bagages, et juste avant le lever du jour, trois Khmers Rouges apparaissent à la porte.
Camarades, vous devez partir, maintenant. N'emportez pas grand-chose, il n'y en a que pour 3 jours. Les Américains vont bombarder la ville.
Des bombardements américains? Mais ça ne tient pas debout. Enfin, ils nous ont abandonnés à notre sort il y a 6 jours. S'ils avaient voulu bombarder les Khmers Rouges, ils l'auraient fait à ce moment-là. On rassemble des vêtements, de la nourriture, des couvertures et des ustensiles de cuisine. Et on s'entasse, j'ai compté à 32, dans 3 voitures, plus une moto et un vélo. Et on s'engage dans une cohue sur le boulevard Monivong, en direction du sud. Je reconnais des gens. Des ingénieurs, des fonctionnaires, des professeurs, des médecins, là, des infirmières. Je vois un homme qui porte son père malade sur le dos. Je vois des éclopés avec des béquilles, des malades sur leur lit d'hôpital à roulettes, des gens qui ont entassé des objets sur un cycle au pouce. Mais où allons-nous? Vers 10 heures, il fait terriblement chaud. On est au mois d'avril. C'est le mois le plus chaud, c'est la fin de la saison sèche. On a parcouru quoi? 1 kilomètre quand soudain. Je regarde autour de nous, et là, sur les marches d'une maison, je vois un jeune homme de 18 ans, et à 15 mètres de lui, un soldat Khmer Rouge, le canon de son AK-47 encore fumant. Le gamin avait oublié quelque chose chez lui. Il a voulu faire marche arrière. Vers 13 heures, on s'arrête à la faculté de droit. Et on passe la nuit là, avec 2 ou 3 Khmers Rouges armés qui font des rondes. J'ai une radio, mais je n'ose pas l'allumer. On est resté là 3 jours. Et le matin du 4e jour, on est reparti en direction du sud. On a repris la route, 1 jour, 2 jours à toute petite vitesse. Et plus on s'éloigne, plus les malades, les blessés, les vieillards, les impotents sont épuisés, le regard vide. On croise 2 fois des femmes pendues à des arbres. Elles se sont suicidées. Et sur le bas-côté, on croise de plus en plus de corps abandonnés. Les gens ne tiennent plus le coup que grâce à la famille. Le soir du 7e jour, ils sont venus nous prendre notre moto.
Elle est à qui cette moto? L'ANCAR en a besoin.
L'ANCAR, l'organisation. Si mes voix qu'on voulu protester.
Vous osez dire non à l'ANCAR?
Il a tiré en l'air, juste devant le visage de ma sœur. Le matin du 10e jour, à l'entrée de Koh Tom, 4 soldats Khmers Rouges nous arrêtent sur le bord de la route.
Est-ce que vous avez des imprimés dans votre voiture? Videz la voiture de tout ce qui est imprimé. Tous vos papiers, tout. Oui, vos livres aussi, tout ce qui est imprimé.
Je lui montre mon dictionnaire français-anglais, mes manuels techniques.
Ah, c'est de la pensée impérialiste, ça. C'est les restes d'une culture féodale. Jetez-les.
On a tout jeté. Même la carte grise de ma voiture. De toute façon, 1,5 km plus loin, ils nous ont pris la voiture. Et ils nous ont donné un reçu. Un jeune Khmer rouge nous fait signe d'approcher.
Votre nom? Profession? Âge?
Je réponds de bonne foi, je dis la vérité. Lui, il note.
Vous avez des dollars?
J'hésite. La liasse est dans ma poche. Mais personne ne me fouille. Ils doivent penser qu'on ne dira jamais non à l'Ankar. Une partie de ma famille a voulu rejoindre des amis à Takeo. On se remet donc en marche vers le sud. On est 18. 18 dont 3 personnes âgées et 7 enfants. Quand on arrive à Chuuk Mao, des haut-parleurs diffusent un chant révolutionnaire strident. Des soldats nous conduisent à une pagode et pour la première fois, ils nous donnent à manger. Et après, ils se mettent à nous fouiller les poches et les bagages. Et j'ai toujours mes 3000 dollars dans la poche. Alors j'appelle mon fils, je l'attire vers moi.
Dis, Nawat,
tu vois les enfants qui s'amusent là-bas? Tu peux pas aller jouer avec eux? Et je lui passe mon paquet de dollars qu'il fourre dans sa poche. Ils ne se sont pas intéressés aux bijoux d'Annie, ni à mon magnétophone. Ils ne voulaient que des dollars. Le lendemain, même chant révolutionnaire dans les haut-parleurs. Ils nous attribuent une paillote en bambou sur pilotis, en bon état. Et l'après-midi, la cacophonie musicale est interrompue par une voix rauque.
Vous êtes convoqués dans le hall de la pagode pour une réunion politique.
Et là, on se retrouve face à une demi-douzaine de cadres Khmer rouges, hommes et femmes, tout en noir, rassemblés autour d'un homme que je suppose être le chef. On se réunit par famille, on est triste, là, résigné, des zombies.
Ici par Anka. Durant le règne des impérialistes, vous ne pouviez pas vous déplacer sans papier d'identité. Eh bien, désormais, vous n'en avez plus besoin. Ces papiers vous humiliaient. Ils étaient comme des médailles au cou des chiens. Vous êtes libre maintenant. Délivré des impérialistes. Ces couards se sont enfuis. Les impérialistes nous ont abandonnés. Mais l'Ankar est clémente. Malgré votre collaboration à l'ancien régime, l'Ankar vous pardonne. L'Ankar est généreuse. Elle promet de vous nourrir, de vous loger, si vous abandonnez vos anciennes coutumes et vos vêtements coloniaux et occidentaux. Vous devez éliminer toute trace d'impérialisme, de féodalité, de colonialisme. Nous vous remercions d'être venu écouter l'Ankar. Maintenant, rentrez chez vous.
Ce type n'a aucune instruction. Ça s'entend. Il récite par cœur des clichés révolutionnaires. À ce moment-là, je crois encore que les Khmers rouges vont m'appeler pour aider à la reconstruction de mon pays. Le lendemain matin, à 5h30, on est tiré du sommeil par le haut-parleur.
Camarades, il est l'heure de se réveiller. Soyez à la pagode à 6h. Préparez-vous pour le travail.
Y compris les femmes et mon fils de 9 ans. Il nous distribue des haches et des machettes. Il nous sépare en groupes d'hommes, de femmes et d'enfants. Et on nous emmène dans un champ qu'il faut défricher pour en faire un champ de maïs. Et toute la journée, je coupe, j'arrache. J'ai mal aux mains, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes, mais je ne vais pas me plaindre. J'ai vu des enfants et des vieillards mourir sur le bord de la route. Et ma famille à moi est indemne. Et puis les Khmers rouges n'ont pas l'air si menaçants. Quand ils nous parlent, ils sont calmes, ils sont courtois. Je ne peux pas me plaindre. On nous a conseillé de teindre nos vêtements en noir, en les plongeant dans de la boue la plus noire possible. Et de ne plus porter de lunettes. Et encore moins de lunettes de soleil. C'est impérialiste, les lunettes de soleil. On mange du riz et du sel, avec parfois un peu de poisson séché. Plus de sport, plus de loisirs, et pas de médecin. Ni de jouets pour les enfants, et pas de livres, pas d'école. 2 à 3 séances d'éducation politique par semaine, et un informateur qui rôde autour de nos maisons pour voir ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et toujours des illusions. Moi, je pense qu'ils veulent nous tester. Je pense qu'ils nous renverront à Phnom Penh quand le temps de la pénitence sera terminé, c'est tout. À un moment, ils vont avoir besoin d'ingénieurs, d'enseignants. Tous les jours, il y a des morts. Et on les enterre sans moines, sans prières. Et on commence à manquer de nourriture. Stode, mon fils de 2 ans, a le ventre qui gonfle. Et ma femme Annie n'a plus ses règles. Au mois de juillet, 3 mois après qu'on a quitté Phnom Penh, au cours d'une réunion politique...
Y a-t-il parmi vous des personnes originaires de la province de Kampong Speu et de Kampot qui souhaiteraient retourner dans leur village?
Mes parents ont vécu à Udong, près de Kampong Speu. Alors je lève la main, et eux aussi. Le lendemain, on est 80 devant le bateau qui doit nous faire remonter le fleuve.
Vous êtes trop nombreux. Donc certains vont devoir partir à pied. Mais ne vous inquiétez pas. Vous vous retrouverez là-bas.
Je le redoutais, ça. Il faut donc nous séparer. Mes parents prennent le bateau avec les enfants. Et nous, on part à pied avec les bébés. Et on repasse par Koh Tom. Et là, sur le bas-côté, je vois ma voiture, ma Fiat, symbole de mon ancienne vie. Elle n'a plus de pneus, les jantes sont rouillées, le pare-brise éclaté. Quand je pense que j'ai cru que je pourrais la récupérer en présentant mon reçu et rentrer à Phnom Penh. Finalement, on se retrouve tous à Plek Taduong. Ouf! Et là, mon père me raconte une drôle d'histoire. « Thaï, figure-toi que sur le bateau, un homme a critiqué l'Anga. Et là, ils l'ont fouillé. Et ils ont trouvé sur lui 10 000 dollars. Eh ben, tu sais pas ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les billets à l'eau, Thaï. Ils les ont jetés à l'eau, ils les ont pas gardés. » Des ignorants. Ils nous ont fait monter dans un camion, à 30 ou 40. Et on est remonté vers Phnom Penh. On a tourné à gauche vers une piste forestière. Mais où est-ce qu'ils nous emmènent? Ils nous ont menti. Ils nous ont trompés. On ne va pas à Kampong Speu. On s'est retrouvé à Sramar Liv, dans la province de Takeo.
Camarades! Vous allez bientôt retourner dans vos villages. Mais pour l'instant, nous sommes en juillet. C'est la pleine saison des cultures. Vous devez travailler ici pour cultiver le riz et produire notre nourriture. Après, vous partirez. Mais l'Ankar vous demande de rester ici. Ce sera l'occasion de vous purifier.
Ils nous ont attribué une pièce dans un bâtiment en briques dans l'enceinte de la pagode. Et le travail commence le lendemain. Annie repique le riz dans les champs et moi je deviens laboureur. Mais un mois plus tard, les rizières s'assèchent et tous les plants meurent. La sécheresse. Alors on nous mobilise pour construire un grand canal pour amener l'eau du lac. En allant sur le chantier, on entend un drôle de bruit, comme des marteaux qu'on frappe sur du métal. Alors on s'arrête. On regarde à l'intérieur, et là on voit une Mercedes flambant neuve et 5 forgerons qui sont en train de la désosser.
Qu'est-ce que vous voulez, vous ?
Rien. Regardez votre travail, vous faites quoi ?
On fait des socs de charrue. C'est-à-dire qu'on transforme un objet impérialiste en chose utile pour la Révolution. Voilà.
Ah ! Merveilleux.
Notre travail est une perte de temps.
On creuse, mais personne n'a vérifié si les canaux qu'on est en train de creuser ont une pente descendante depuis le lac. Ils croient que la ferveur révolutionnaire peut remplacer les lois de la physique. Et quand on ose le leur faire remarquer...
Vous ne connaissez rien à la Révolution.
Nous aussi.
Un soir, début septembre, lors d'une réunion politique...
Y a-t-il des gens ici qui viennent de Batamman et qui veulent y retourner ?
Je lève la main.
Vous êtes de Batamman ? Vous avez dit l'autre jour que vous étiez de Kampong Speu.
Oui, mais c'est ma femme et sa famille qui sont de là-bas.
On fait nos bagages le soir même.
Et pour aller à Batambang, il faut traverser Phnom Penh, la capitale. Quand on arrive dans les faubourgs, au niveau de l'aéroport Pochentong, personne, pas un habitant. Les jardins envahis par la végétation. Au passage, j'essaye de voir la maison de mes beaux-parents, elle est trop loin. On est sans nouvelles d'eux. Annie n'en parle jamais. On traverse le quartier de Tuol Kok, un désert. Le bâtiment de la télévision, envahi d'herbe. Le stade Lambert, plongé dans le silence. À droite, l'ambassade de France, désertée. Les camions poursuivent leur route vers le nord. On passe par Udong, où je suis né.
Regarde, Soudat. Tu vois là, c'est la maison de ton grand-père.
On traverse Kampong Chnang, désert. Et le lendemain, après une pause la nuit, on prend la route de Pursat.
Oubliez Batambang. Ils nous ont encore menti. Et la route s'arrête là, d'un coup, au bord d'une rivière, où attendent déjà des milliers d'autres déportés.
D'après ce que j'ai compris, on va devoir aller dans la forêt pour défricher l'une des régions les plus sauvages du Cambodge, les Cardamones.
Six mois après notre départ de Phnom Penh, mon petit dernier, Stod, ne va pas bien du tout. Il n'a même plus la force de pleurer. Un soir, il a beaucoup de fièvre. Ce soir-là, il pleut beaucoup. Il pleut tellement que de l'eau ruisselle dans notre paillote. Une dernière fois, il crie « Mac, Mac, maman, maman ». Et il est mort. C'est le premier mort de notre famille. Et je vous le dis, ce n'est pas le dernier. Ils vont tous mourir, un par un. Et je serai le seul, à me sortir de cet enfer.
La suite dans le deuxième épisode. Je vous rappelle le titre du livre de Pignataï dont j'ai tiré cette histoire. Tu vivras mon fils, édité par Archie Poche.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.